Section 8 de Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehan. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par Honoré de Balzac. Théorie de la démarche. Troisième partie. Les plus habiles observateurs sont dans le monde, mais, ou paresseux, ou insouciants de gloire, ils meurent, ayant eu de cette science ce qu'il leur en fallait pour leur usage, et pour rire le soir à minuit quand il n'y a plus que trois personnes dans un salon. En ce genre, Gérard aurait été le littérateur le plus spirituel s'il n'eût pas été grand peintre. Sa touche est aussi fine quand il fait un portrait que lorsqu'il le peint. Enfin, souvent ce sont des hommes grossiers, des ouvriers en contact avec le monde et forcés de l'observer, comme une femme faible et contrainte d'étudier son mari pour le jouer, qui, possesseurs de remarques prodigieuses, s'en vont faisant banqueroute de leurs découvertes au monde intellectuel. Souvent aussi, la femme la plus artiste, qui, dans une causerie familière, étonne par la profondeur de ses aperçus, dédaigne d'écrire, rit des hommes, les méprise et s'en sert. Ainsi, le sujet le plus délicat de tous les sujets psychologiques est resté vierge sans être intact. Il voulait et trop de science et trop de frivolité, peut-être. Moi, poussé par cette croyance en nos talents, la seule qui nous reste dans le grand naufrage de la foi, poussé sans doute encore par un premier amour pour un sujet neuf, j'ai donc obéi à cette passion. Je suis venu me placer sur cette chaise, j'ai regardé les passants, mais, après avoir admiré les trésors, je me suis sauvé d'abord, pour m'en amuser, en emportant le secret du « Sésame, ouvre-toi ». Car il ne s'agissait pas de voir et de rire, ne fallait-il pas analyser, abstraire et classer? Classer pour pouvoir codifier, codifier, faire le code de la démarche, en d'autres termes, rédiger une suite d'axiomes pour le repos des intelligences faibles ou paresseuses, afin de leur épargner la peine de réfléchir et les amener, par l'observation de quelques principes clairs, à régler leurs mouvements. En étudiant ce code, les hommes progressifs et ceux qui tiennent au système de la perfectibilité pourraient paraître aimables, gracieux, distingués, bien élevés, fashionables, aimés, instruits, ducs, marquis ou comtes, au lieu de sembler vulgaire, stupide, ennuyeux, pédant, ignoble, maçon du roi Louis-Philippe ou baron de l'Empire. Et n'est-ce pas ce qu'il y a de plus important chez une nation dont la devise est « tout pour l'enseigne » S'il m'était permis de descendre au fond de la conscience de l'incorruptible journaliste, du philosophe éclectique, du vertueux épicier, du délicieux professeur, du vieux marchand de mousseline, de l'illustre papetier qui, par la grâce moqueuse de Louis-Philippe, sont les derniers pairs de France venus. Je suis persuadé d'y trouver ce souhait, écrit en lettres d'or. Je voudrais bien avoir l'air noble. Ils s'en défendront, ils le nieront, ils vous diront « Je n'y tiens pas, cela m'est égal, je suis journaliste, philosophe, épicier, professeur, marchand de toile ou de papier. » Ne les croyez pas. Forcés d'être pairs de France, ils veulent être pairs de France. Mais s'ils sont pairs de France, au lit, à table, à la chambre, dans le bulletin des lois, aux Tuileries, dans leur portrait de famille, il leur est impossible d'être pris pour des pairs de France lorsqu'ils passent sur le boulevard. Là, ces messieurs redeviennent gros gens comme devant. L'observateur ne cherche même pas ce qu'ils peuvent être. Tandis que, si monsieur le duc de Laval, si monsieur de Lamartine, si monsieur le duc de Rouen viennent à s'y promener, leur qualité n'est un doute pour personne. Et je ne conseillerais pas à ceux-là de suivre ceci. Je voudrais bien n'offenser aucun amour-propre. Si j'avais involontairement blessé l'un des derniers pères venus dont j'improuve l'intronisation patricienne, mais dont j'estime la science, le talent, les vertus privées, la probité commerciale, sachant bien que le premier et le dernier ont eu le droit de vendre l'un son journal, l'autre son papier, plus cher qu'il ne leur coûtait. Je crois pouvoir jeter quelque baume sur cette égratignure en leur faisant observer que je suis obligé de prendre mes exemples en haut lieu, pour convaincre les bons esprits de l'importance de cette théorie. Et en effet, je suis resté pendant quelque temps stupéfié par les observations que j'avais faites sur le boulevard de Gand, et surpris de trouver au mouvement des couleurs aussi tranchées. De là, ce premier aphorisme. 1. La démarche et la physionomie du corps. N'est-il pas effrayant de penser qu'un observateur profond peut découvrir un vice, un remords, une maladie, en voyant un homme en mouvement? Quel riche langage dans ces effets immédiats d'une volonté traduite avec innocence! L'inclination plus ou moins vive d'un de nos membres, la forme télégraphique dont il a contracté, malgré nous, l'habitude, l'angle ou le contour que nous lui faisons décrire, sont empreints de notre vouloir et sont d'une effrayante signification. C'est plus que la parole, c'est la pensée en action. Un simple geste, un involontaire frémissement de lèvres, peut devenir le terrible dénouement d'un drame caché longtemps entre deux cœurs. Aussi, de là, cet autre aphorisme. 2. Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques. Mais, comme il n'a pas été donné à l'homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre expressions diverses et simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai. Vous connaîtrez l'homme tout entier. Exemple. Monsieur S. n'est pas seulement chimiste et capitaliste, il est profond observateur et grand philosophe. Monsieur O. n'est pas seulement un spéculateur, il est homme d'État, il est tien et de l'oiseau de proie et du serpent. Il emporte des trésors et sait charmer les gardiens. Ces deux hommes aux prises ne doivent-ils pas offrir un admirable combat, en luttant ruse contre ruse, dire contre dire, mensonge à outrance, spéculation au poing, chiffres en tête? Or, ils se sont rencontrés, un soir, au coin d'une cheminée, sous le feu des bougies, le mensonge sur les lèvres, dans les dents, au front, dans l'œil, sur la main. Ils en étaient armés, de pied en cap. Il s'agissait d'argent. Ce duel eut lieu sous l'Empire. Monsieur O, qui avait besoin de 500 000 francs pour le lendemain, se trouvait à minuit debout à côté de S. Voyez-vous bien, S, homme de bronze, vrai Shylock, qui, plus rusé que son devancier, prendrait la livre de chair avant le prêt. Le voyez-vous accosté par O, l'Alcibiade de la banque, l'homme capable d'emprunter successivement 3 royaumes sans les restituer, et capable de persuader à tout le monde qu'il les a enrichis? Suivez-les. Monsieur O demande légèrement à Monsieur S 500 000 francs pour 24 heures, en lui promettant de les lui rendre en telle et telle valeur. Monsieur, dit Monsieur S, à la personne de qui je tiens cette précieuse anecdote, quand O me détailla les valeurs, le bout de son nez vint à blanchir, du côté gauche seulement, dans le léger cercle décrit par un méplat qui s'y trouve. J'avais déjà eu l'occasion de remarquer que mes 500 000 francs seraient compromis pendant un certain temps. « Eh bien, lui demanda-t-on. « Eh bien, reprit-il, il laissa réchapper un soupir. « Eh bien, ce serpent me tint pendant une demi-heure. Je lui promis les 500 000 francs, et il les eut. Les a-t-il rendus ? S pouvait calomnier O. Sa haine, bien connue, lui en donnait le droit, à une époque où l'on tue ses ennemis à coups de langue. Je dois dire, à la louange de cet homme bizarre, qu'il répondit « Oui, mais ce fut piteusement. Il aurait voulu pouvoir accuser son ennemi d'une tromperie de plus. » Quelques personnes disent M. O, encore plus fort en fait de dissimulation que ne l'est M. le prince de Bénévent. Je le crois volontiers. Le diplomate ment pour le compte d'autrui, le banquier ment pour lui-même. Eh bien, ce moderne bourvalais, qui a pris l'habitude d'une admirable immobilité de trait, d'une complète insignifiance dans le regard, d'une imperturbable égalité dans la voix, d'une habile démarche, n'a pas su dompter le bout de son nez. Chacun de nous a quelque méplat ou triomphe l'âme, un cartilage d'oreille qui rougit, un nerf qui tressaille, une manière trop significative de déplier les paupières, une ride qui se creuse intempestivement, une parlante pression de lèvres, un éloquent tremblement dans la voix, une respiration qui se gêne,
Que voulez-vous ? Le vice n'est pas parfait. Donc, mon axiome subsiste. Il domine toute cette théorie. Il en prouve l'importance. La pensée est comme la vapeur. Quoi que vous fassiez, et quelque subtile qu'elle puisse être, il lui faut sa place. Elle la veut. Elle la prend. Elle reste même sur le visage d'un homme mort. Le premier squelette que j'ai vu était celui d'une jeune fille, morte à 22 ans. Elle avait la taille fine et devait être gracieuse, dis-je au médecin. Il parut surpris. La disposition des côtes et je ne sais quelle bonne grâce de squelette trahissaient encore les habitudes de la démarche. Il existe une anatomie comparée morale comme une anatomie comparée physique. Pour l'âme, comme pour le corps, un détail mène logiquement à l'ensemble. Il n'y a certes pas deux squelettes semblables, et de même que les poisons végétaux se retrouvent en nature, dans un temps voulu, chez l'homme empoisonné, de même les habitudes de la vie reparaissent aux yeux du chimiste moral, soit dans les sinus du crâne, soit dans les attachements des os, de ceux qui ne sont plus. Mais les hommes sont beaucoup plus naïfs qu'ils ne le croient, et ceux qui se flattent de dissimuler leur vie intime sont des faquins. Si vous voulez dérober la connaissance de vos pensées, imitez l'enfant ou le sauvage. Ce sont vos maîtres. En effet, pour pouvoir cacher sa pensée, il faut n'en avoir qu'une seule. Tout homme complexe se laisse facilement deviner. Aussi, tous les grands hommes sont-ils joués par un être qui leur est inférieur. L'âme perd en force centripète ce qu'elle gagne en force centrifuge. Or, le sauvage et l'enfant font converger tous les rayons de la sphère dans laquelle ils vivent à une idée, à un désir. Leur vie est monophile, et leur puissance gît dans la prodigieuse unité de leurs actions. L'homme social est obligé d'aller continuellement du centre à tous les points de la circonférence. Il a 1000 passions, 1000 idées, et il existe si peu de proportions entre sa base et l'étendue de ses opérations, qu'à chaque instant il est pris en flagrant délit de faiblesse. De là le grand mot de William Pitt. Si j'ai fait tant de choses, c'est que je n'en ai jamais voulu qu'une seule à la fois. De l'inobservation de ce précepte ministériel procède le naïf langage de la démarche. Qui de nous pense à marcher en marchant? Personne. Bien plus, chacun se fait gloire de marcher en pensant. Mais lisez les relations écrites par les voyageurs qui ont le mieux observé les peuplades improprement nommées sauvages. Lisez le baron de la Hontan qui a fait les Mohicans avant que Cooper y songeât. Et vous verrez, à la honte des gens civilisés, quelle importance les sauvages attachent à la démarche. Le sauvage, en présence de ses semblables, n'a que des mouvements lents et graves. Il sait par expérience que plus les manifestations extérieures se rapprochent du repos, plus impénétrable est la pensée. De là cet axiome 3. Le repos est le silence du corps. 4. Le mouvement lent est essentiellement majestueux. Croyez-vous que l'homme dont parle Virgile, et dont l'apparition calmait le peuple en fureur, arrivait devant la sédition en sautillant? Ainsi, nous pouvons établir en principe que l'économie du mouvement est un moyen de rendre la démarche et noble et gracieuse. Un homme qui marche vite ne dit-il pas déjà la moitié de son secret? Il est pressé. Le docteur Gall a observé que la pesanteur de la cervelle, le nombre de ses circonvolutions, était chez tous les êtres organisés en rapport avec la lenteur de leur mouvement vital. Les oiseaux ont peu d'idées. Les hommes qui vont habituellement vite doivent avoir généralement la tête pointue et le front déprimé. D'ailleurs, logiquement, l'homme qui marche beaucoup arrive nécessairement à l'état intellectuel du danseur de l'opéra. Suivons. Si la lenteur, bien entendu, de la démarche annonce un homme qui a du temps à lui, du loisir, conséquemment un riche, un noble, un penseur, un sage, les détails doivent nécessairement s'accorder avec le principe. Alors, les gestes seront peu fréquents et lents. De là, cet autre aphorisme. 5. Tout mouvement saccadé trahit un vice ou une mauvaise éducation. N'avez-vous pas souvent ri des gens qui virvouchent? Virvoucher est un admirable mot du vieux français, remis en lumière par Lautour-Mézeray. Virvoucher exprime l'action d'aller et de venir, de tourner autour de quelqu'un, de toucher à tout, de se lever, de se rasseoir, de bourdonner, de tatillonner. Virvoucher, c'est faire une certaine quantité de mouvements qui n'ont pas de but. C'est imiter les mouches. Il faut toujours donner la clé des champs au virvoucheur. Il vous casse la tête ou quelques meubles précieux.
Fin de la section 8. Section 9
de « Le traité de la vie élégante » suivi de la « Théorie de la démarche ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante suivi de la théorie de la démarche par Honoré de Balzac.
Théorie de la démarche. Quatrième partie.
N'avez-vous pas ri d'une femme dont tous les mouvements de bras, de tête, de pied ou de corps produisent des angles aigus? Des femmes qui vous tendent la main comme si quelque ressort faisait partir leurs coudes, qui s'asseyent tout d'une pièce, ou qui se lèvent comme le soldat d'un joujou à surprise. Ces sortes de femmes sont très souvent vertueuses. La vertu des femmes est intimement liée à l'angle droit. Toutes les femmes qui ont fait ce que l'on nomme des fautes sont remarquables par la rondeur exquise de leurs mouvements. Si j'étais mère de famille, ces mots sacramentels du maître à danser, « arrondissez les coudes », me feraient trembler pour mes filles. De là cet axiome. 6. La grâce veut des formes rondes. Voyez la joie d'une femme qui peut dire de sa rivale « Elle est bien anguleuse ». Mais, en observant les différentes démarches, il s'éleva dans mon âme un doute cruel, et qui me prouva qu'en toute espèce de science, même dans la plus frivole, l'homme est arrêté par d'inextricables difficultés. Il lui est aussi impossible de connaître la cause et la fin de ses mouvements que de savoir celle des pois chiches. Ainsi, tout d'abord, je me demandais d'où devait procéder le mouvement. Eh bien, il est aussi difficile de déterminer où il commence et où il finit en nous que de dire où commence et où finit le grand sympathique, cet organe intérieur qui, jusqu'à présent, a lassé la patience de tant d'observateurs. Borelli lui-même, le grand Borelli, n'a pas abordé cette immense question. N'est-il pas effrayant de trouver tant de problèmes insolubles dans un acte vulgaire, dans un mouvement que 800 000 Parisiens font tous les jours? Il est résulté de mes profondes réflexions sur cette difficulté l'aphorisme suivant, que je vous prie de méditer. 7. Tout en nous participe du mouvement, mais il ne doit prédominer nulle part. En effet, la nature a construit l'appareil de notre mobilité d'une façon si ingénieuse et si simple qu'il en résulte, comme en toutes ses créations, une admirable harmonie. Et, si vous la dérangez par une habitude quelconque, il y a laideur et ridicule, parce que nous ne nous moquons jamais que des laideurs dont l'homme est coupable. Nous sommes impitoyables pour des gestes faux, comme nous le sommes pour l'ignorance ou pour la sottise. Ainsi, de ceux qui passèrent devant moi et m'apprirent les premiers principes de cet art, jusqu'à présent dédaignés, le premier de tous fut un gros monsieur. Ici, je ferai observer qu'un écrivain éminemment spirituel a favorisé plusieurs erreurs, en les soutenant par son suffrage. Brillat Savarin a dit qu'il était possible à un homme gros
de contenir son ventre au majestueux.
Non, si la majesté ne va pas sans une certaine amplitude de chair, il est impossible de prétendre à une démarche dès que le ventre a rompu l'équilibre entre les parties du corps. La démarche cesse à l'obésité. Un obèse est nécessairement forcé de s'abandonner au faux mouvement introduit dans son économie par son ventre qui la domine. Exemple. Henri Monnier aurait certainement fait la caricature de ce gros monsieur en mettant une tête au-dessus d'un tambour et dessous les baguettes en X. Cet inconnu semblait, en marchant, avoir peur d'écraser des œufs. Assurément, chez cet homme, le caractère spécial de la démarche était complètement aboli. Il ne marchait pas plus que les vieux canonniers n'entendent. Autrefois, il avait eu le sens de la locomotion. Il avait sautillé, peut-être. Mais aujourd'hui, le pauvre homme ne se comprenait plus marcher. Il me fit l'aumône de toute sa vie et d'un monde de réflexion. qui avait amolli ses jambes? D'où provenait sa goutte, son embonpoint? Était-ce les vices ou le travail qui l'avaient déformé? Triste réflexion, le travail qui édifie et le vice qui détruit produisent en l'homme les mêmes résultats. Obéissant à son ventre, ce pauvre riche semblait tordu. Il ramenait péniblement ses jambes, l'une après l'autre, par un mouvement traînant et maladif, comme un mourant qui résiste à la mort et se laisse traîner de force par elle sur le bord de la fosse. Par un singulier contraste, après lui venait un homme qui allait, les mains croisées derrière le dos, les épaules effacées, tendues, les omoplates rapprochées. Il était semblable à un perdreau servi sur une rôtie. Il paraissait n'avancer que par le cou, et l'impulsion était donnée à tout son corps par le thorax. Puis une jeune demoiselle, suivie d'un laquais, vint sautant sur elle-même, à l'instar des Anglaises. Elle ressemblait à une poule dont on a coupé les ailes et qui essaye toujours de voler. Le principe de son mouvement semblait être à la chute de ses reins. En voyant son laquais armé d'un parapluie, vous eussiez dit qu'elle craignait d'en recevoir un coup dans la partie d'où partait son quasi-vol. C'était une fille de bonne maison, mais très gauche, indécente, le plus innocemment du monde. Ensuite, je vis un homme qui avait l'air d'être composé
de deux compartiments.
Il ne risquait sa jambe gauche et tout ce qui en dépendait qu'après avoir assuré la droite et tout son système. Il appartenait à la faction des binaires. Évidemment, son corps devait avoir été primitivement fendu en deux par une révolution quelconque. Il s'était miraculeusement, mais imparfaitement, ressoudé. Il avait deux axes, sans avoir plus d'un cerveau. Bientôt, ce fut un diplomate, personnage squelettique, marchant tout d'une pièce, comme ces pantins dont Joly oublie de tirer les ficelles. Vous l'eussiez cru serré comme une momie dans ses bandelettes. Il était pris dans sa cravate comme une pomme dans un ruisseau par un temps de gelée. S'il se retourne, il est clair qu'il est fixé sur un pivot et qu'un passant l'a heurté. Cet inconnu m'a prouvé la nécessité de formuler cet axiome. 8. Le mouvement humain se décompose en temps bien distincts. Si vous les confondez, vous arrivez à la roideur de la mécanique. Une jolie femme, se défiant de la proéminence de son busque, ou gênée, je ne sais par quoi, s'était transformée en Vénus Callipyge et allait, comme une pintade, tendant le cou, rentrant son busque et bombant la partie opposée à celle sur laquelle appuyait le busque. En effet, l'intelligence doit briller dans les actes imperceptibles
et successifs
de notre mouvement, comme la lumière et les couleurs se jouent dans les losanges des changeants anneaux du serpent. Tout le secret des belles démarches est dans la décomposition du mouvement. Puis venait une dame qui se creusait également comme la précédente. Vraiment, s'il y en avait eu une troisième et que vous les eussiez observées, vous n'auriez pas pu vous empêcher de rire des demi-lunes toutes faites par ces protubérances exorbitantes. La saillie prodigieuse de ces choses, que je ne saurais nommer et qui domine singulièrement la question de la démarche féminine, surtout à Paris, m'a longtemps préoccupée. Je consultais des femmes d'esprit, des femmes de bon goût, des dévotes. Après plusieurs conférences où nous discutâmes le fort et le faible, en conciliant les égards dus à la beauté, au malheur de certaines conformations diaboliquement rondes, nous rédigeâmes cet admirable aphorisme. 9. En marchant, les femmes peuvent tout montrer, mais ne rien laisser voir. « Mais certainement, s'écria l'une des dames consultées, les robes n'ont été faites que pour cela. » Cette femme a dit une grande vérité. Toute notre société est dans la jupe. Ôtez la jupe à la femme. Adieu la coquetterie. Plus de passion. Dans la robe est toute sa puissance. Là où il y a des pagnes, il n'y a pas d'amour. Aussi bon nombre de commentateurs, les Massorets surtout, prétendent que la feuille de figuier de notre mère Ève était une robe de cachemire. Je le pense. Je ne quitterai pas cette question secondaire sans dire deux mots sur une dissertation vraiment neuve qui eut lieu pendant ces conférences. Une femme doit-elle retrousser sa robe en marchant? Immense problème si vous vous rappelez combien de femmes empoignent sans grâce au bas du dos un paquet d'étoffes et vont en faisant décrire par en bas un immense hiatus à leur robe. Combien de pauvres filles marchent innocemment en tenant leur robe transversalement relevée de manière à tracer un angle dont le sommet est au pied droit, dont l'ouverture arrive au-dessus du mollet gauche, et qui laisse voir ainsi leurs bas bien blancs, bien tendus, le système de leurs cothurnes, et quelques autres choses. À voir les jupes de femmes ainsi retroussées, il semble que l'on ait relevé par un coin le rideau d'un théâtre, et qu'on aperçoive les pieds des danseuses. Et d'abord, il passa en force de choses jugées que les femmes de bon goût ne sortaient jamais à pied par un temps de pluie, ou quand les rues étaient crottées. Puis il fut décidé souverainement qu'une femme ne devait jamais toucher à sa jupe en public, et ne devait jamais la retrousser sous aucun prétexte. Cependant, dis-je, s'il y avait un ruisseau à passer. Eh bien, monsieur, une femme comme il faut pince légèrement sa robe du côté gauche, la soulève, se hausse par un petit mouvement, et lâche aussitôt la robe. Écho. Alors, je me souvins de la magnificence des plis de certaines robes. Alors,
je me rappelais les admirables ondulations de certaines personnes,
la grâce des sinuosités, des flexuosités mouvantes de leurs côtes, et je n'ai pu résister à consigner ici ma pensée. 10. Il y a des mouvements de jupe qui valent un prix Montyon. Il demeure prouvé que les femmes ne doivent lever leurs robes que très secrètement. Ce principe passera pour incontestable en France. Et, pour en finir sur l'importance de la démarche en ce qui concerne les diagnostics, je vous prie de me pardonner une citation diplomatique. La princesse de Hesse-Darmstadt amena ses trois filles à l'impératrice, afin qu'elle choisît entre elles une femme pour le grand-duc, dit un ambassadeur du dernier siècle, M. Mercy d'Argenteau. Sans leur avoir parlé, l'impératrice se décida pour la seconde. La princesse, étonnée, lui demanda la raison de ce bref jugement. « Je les ai regardées toutes trois de ma fenêtre pendant qu'elles descendaient de carrosse, » répondit l'impératrice. « L'aînée a fait un faux pas. La seconde est descendue naturellement. La troisième a franchi le marchepied. L'aînée doit être gauche, la plus jeune étourdie. » C'était vrai. Si le mouvement trahit le caractère, les habitudes de la vie, les mœurs les plus secrètes, que direz-vous de la marche de ces femmes bien corsées, qui, ayant des hanches un peu fortes, les font monter, descendre alternativement, en temps bien égaux, comme les leviers d'une machine à vapeur, et qui mettent une sorte de prétention à ce mouvement systématique? Ne doivent-elles pas scander l'amour avec une admirable précision? Pour mon bonheur, un agent de change ne manqua pas à passer sur ce boulevard où trône la spéculation. C'était un gros homme, enchanté de lui-même, et tâchant de se donner de l'aisance et de la grâce. Il imprimait à son corps un mouvement de rotation qui faisait périodiquement rouler et dérouler sur ses cuisses les pans de sa redingote, comme la voluptueuse jaquette de la Taglioni quand, après avoir achevé sa pirouette, elle se retourne pour recevoir les bravos du parterre. C'était un mouvement de circulation en rapport avec ses habitudes. Il roulait comme son argent. Il était suivi par une grande demoiselle qui, les pieds serrés, la bouche pincée, tout pincée, décrivait une légère courbe et allait, par petites secousses, comme si, mécanique imparfaite, ses ressorts étaient gênés, ses apophyses déjà soudées, ses mouvements avaient de la roideur. Elle faillait à mon huitième axiome. Quelques hommes passèrent, marchant d'un air agréable. Véritable modèle d'une reconnaissance de théâtre, ils semblaient tous retrouver un camarade de collège dans le citoyen paisible et insouciant qui venait à eux. Je ne dirai rien de ces paillasses involontaires qui jouent des drames dans la rue, mais je les prie de réfléchir à ce mémorable axiome. 11. Quand le corps est en mouvement, le visage doit être immobile. Aussi vous peindrai-je difficilement mon mépris pour l'homme affairé, allant vite, filant comme une anguille dans sa vase, à travers les rangs serrés des flâneurs. Il se livre à la marche comme un soldat qui fait son étape. Généralement, il est causeur, il parle haut, s'absorbe dans ses discours, s'indigne, apostrophe un adversaire absent, lui pousse des arguments sans réplique, gesticule, s'attriste, s'égaie. Adieu, délicieux mime, orateur distingué. Qu'auriez-vous dit d'un inconnu qui communiquait transversalement à son épaule gauche le mouvement de la jambe droite et réciproquement celui de la jambe gauche à l'épaule droite, par un mouvement de flux et reflux si régulier qu'à le voir marcher, vous l'eussiez comparé à deux grands bâtons croisés qui auraient supporté un habit. C'était nécessairement un ouvrier enrichi. Les hommes, condamnés à répéter le même mouvement par le travail auquel ils sont assujettis, ont tous dans la démarche le principe locomotif fortement déterminé. Il se trouve soit dans le thorax, soit dans les hanches, soit dans les épaules. Souvent, le corps se porte tout entier d'un seul côté. Habituellement, les hommes d'étude inclinent la tête. Quiconque a lu la physiologie du goût doit se souvenir de cette expression « le nez à l'ouest » comme M. Villemain. En effet, ce célèbre professeur porte sa tête avec une très spirituelle originalité de droite à gauche. Relativement au port de la tête, il y a des observations curieuses. Le menton en l'air, à la Mirabeau, est une attitude de fierté qui, selon moi, messied généralement. Cette pose n'est permise qu'aux hommes qui ont un duel avec leur siècle. Peu de personnes savent que Mirabeau prit cette audace théâtrale à son grand et immortel adversaire, Beaumarchais. C'étaient deux hommes également attaqués, et au moral, comme au physique, la persécution grandit un homme de génie. N'espérez rien du malheureux qui baisse la tête, ni du riche qui la lève. L'un sera toujours esclave, l'autre l'a été. Celui-ci est un fripon, celui-là le sera. Il est certain que les hommes les plus imposants ont tous légèrement penché leur tête à gauche. Alexandre, César, Louis XIV, Newton, Charles XII, Voltaire, Frédéric II et Byron affectaient cette attitude. Napoléon tenait sa tête droite et envisageait tout rectangulairement. Il y avait habitude en lui de voir les hommes, les champs de bataille et le monde moral en face. Robespierre, homme qui n'est pas encore jugé, regardait aussi son assemblée en face. Danton continua l'attitude de Mirabeau. M. de Chateaubriand incline la tête, à gauche. Après un mûr examen, je me déclare pour cette attitude. Je l'ai trouvée à l'état normal chez toutes les femmes gracieuses. La grâce, et le génie comporte la grâce, a horreur de la ligne droite. Cette observation corrobore notre sixième axiome. Il existe deux natures d'hommes dont la démarche est incommutablement viciée. Ce sont les marins et les militaires. Les marins ont les jambes séparées, toujours prêts de fléchir, de se contracter. Obligés de se dandiner sur les tillacs pour suivre l'impulsion de la mer, à terre, il leur est impossible de marcher droit. Ils louvoient toujours. Aussi commence-t-on à en faire des diplomates. Les militaires ont une démarche parfaitement reconnaissable. Presque tous sont campés sur leurs reins comme un buste sur son piédestal. Leurs jambes s'agitent sous l'abdomen comme si elles étaient mues par une âme subalterne chargée de veiller au parfait gouvernement des choses d'en bas. Le haut du corps ne paraît point avoir conscience des mouvements inférieurs. Allez voir marcher, vous diriez le torse de l'Hercule Farnèse posé sur des roulettes et qu'on amène au milieu d'un atelier. Voici pourquoi. Le militaire est constamment forcé de porter la somme totale de sa force dans le thorax. Il le présente sans cesse et se tient toujours droit. Or, pour emprunter à Amyot l'une de ses plus belles expressions, tout homme qui se dresse en pied pèse vigoureusement sur la terre, afin de s'en faire un point d'appui. Il y a nécessairement dans le haut du corps un contre-coup de la force qu'il puise ainsi dans le sein de la mer commune. Alors l'appareil locomotif se scinde nécessairement chez lui. Le foyer du courage est dans sa poitrine. Les jambes ne sont plus qu'un appendice de son organisation. Les marins et les militaires appliquent donc les lois du mouvement dans le but de toujours obtenir un même résultat. Une émission de force par le plexus solaire et par les mains, deux organes que je nommerais volontiers les seconds cerveaux de l'homme, tant ils sont intellectuellement sensibles et fluidement agissant. Or, la direction constante de leur volonté dans ces deux agents doit déterminer une spéciale atrophie de mouvement, d'où procède la physionomie de leur corps. Les militaires de terre et de mer sont les vivantes preuves des problèmes physiologiques qui ont inspiré cette théorie. La projection fluide de la volonté, son appareil intérieur, la pariété de sa substance avec celle de nos idées, sa mobilité flagrante, ressortent évidemment de ces dernières observations. mais l'apparente futilité de notre ouvrage ne nous permet pas d'y bâtir le plus léger système. Ici, notre but est de poursuivre le cours des démonstrations physiques de la pensée, de prouver que l'on peut juger un homme sur son habit pendu à une tringle, aussi bien que sur l'aspect de son mobilier, de sa voiture, de ses chevaux, de ses gens, et de donner de sages préceptes aux gens assez riches pour se dépenser eux-mêmes dans la vie extérieure. L'amour, le bavardage, les dîners en ville, le bal, l'élégance de la mise, l'existence mondaine, la frivolité, comportent plus de grandeur que les hommes ne le pensent. De là cet axiome, 12, « Tout mouvement exorbitant est une prodigalité sublime ». Fontenelle a touché barre, d'un siècle à l'autre, par la stricte économie qu'il apportait dans la distribution de son mouvement vital. Il aimait mieux écouter que de parler. Aussi passait-il pour infiniment aimable. Chacun croyait avoir l'usufruit du spirituel académicien. Il disait des mots qui résumaient la conversation, et ne conversait jamais. Il connaissait bien la prodigieuse déperdition de fluide que nécessite le mouvement vocal. Il n'avait jamais haussé la voix dans aucune occasion de sa vie. Il ne parlait pas en carrosse pour ne pas être obligé d'élever le ton. Il ne se passionnait point, il n'aimait personne, on lui plaisait. Quand Voltaire se plaignit de ses critiques chez Fontenelle, le bonhomme ouvrit une grande malle, pleine de pamphlets, non coupés. « Voici, dit-il au jeune Arouet, tout ce qui a été écrit contre moi. La première épigramme est de M. Racine, le père. » Il referma la boîte. Fontenelle a peu marché. Il s'est fait porter pendant toute sa vie. Le président Rose lisait pour lui les éloges à l'Académie. Il avait ainsi trouvé moyen d'emprunter quelque chose à ce célèbre avare. Quand son neveu, M. Daube, dont Rullière a illustré la colère et la manie de disputer, se mettait à parler, Fontenelle fermait les yeux, s'enfonçait dans son fauteuil et restait calme. Devant tout obstacle, il s'arrêtait. Lorsqu'il avait la goutte, il posait son pied sur un tabouret et restait coi. Il n'avait ni vertu, ni vice, il avait de l'esprit. Il fit la secte des philosophes et n'en fut pas. Il n'avait jamais pleuré, jamais couru, jamais ri. Madame du Deffand lui dit un jour, « Pourquoi ne vous ai-je jamais vu rire ? Je n'ai jamais fait « ha, ha, ha » comme vous autres » répondit-il. « Mais j'ai ri, tout doucement, en dedans. » Cette petite machine délicate, tout d'abord condamnée à mourir, vécut ainsi plus de 100 ans. Voltaire dut sa longue vie au conseil de Fontenelle. « Monsieur, lui dit-il, faites peu d'enfantillage, c'est des sottises. » Voltaire n'oublia ni le mot, ni l'homme, ni le principe, ni le résultat. À 80 ans, il prétendait n'avoir pas fait plus de 80 sottises. Aussi Madame du Châtelet remplaça-t-elle le portrait du sire de Ferney par celui de Saint-Lambert. Avis aux hommes qui virevouchent, qui parlent, qui courent, et qui, en amour, pindarisent, sans savoir de quoi il s'en va. Ce qui nous use le plus, ce sont nos convictions. Ayez des opinions, ne les défendez pas, gardez-les. Mais des convictions, grand Dieu, quelle effroyable débauche! Une conviction politique ou littéraire est une maîtresse qui finit par vous tuer avec l'épée ou avec la langue. Voyez le visage d'un homme inspiré par une conviction forte. Il doit rayonner. Si jusqu'ici les effluves d'une tête embrasée n'ont pas été visibles à l'œil nu, n'est-ce pas un fait admis en poésie, en peinture? Et s'il n'est pas encore prouvé physiologiquement, certes, il est probable. Je vais plus loin et crois que les mouvements de l'homme font dégager un fluide animique. Sa transpiration est la fumée d'une flamme inconnue. De là vient la prodigieuse éloquence de la démarche, prise comme ensemble des mouvements humains. Voyez, il y a des hommes qui vont tête baissée, comme celle des chevaux de fiacre. Jamais un riche ne marche ainsi, à moins qu'il ne soit misérable. Alors il a de l'or, mais il a perdu ses fortunes de cœur. Quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pose académique. Ils se mettent toujours de trois quarts, comme M. le comte Molé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Ils tiennent leur buste immobile et leur cou tendu. On croirait voir des plâtres de Cicéron, de Démosthène, de Cujas, allant par les rues. Or, si le fameux Marcel prétendait justement que la mauvaise grâce consiste à mettre de l'effort dans les mouvements, que pensez-vous de ceux qui prennent l'effort comme type de leur attitude? D'autres paraissent n'avancer qu'à force de bras. Leurs mains sont des rames dont ils cèdent pour naviguer. Ce sont les galériens de la démarche. Il y a des niais qui écartent trop leurs jambes et sont tout surpris de voir passer sous eux les chiens courant après leur maître. Selon Pluvinel, les gens ainsi conformés font d'excellents cavaliers. Quelques personnes marchent, en faisant rouler, à la manière d'Arlequin, leur tête, comme si elles ne tenaient pas. Puis il y a des hommes qui fondent, comme des tourbillons. Ils font du vent, ils paraphrasent la Bible. Il semble que l'Esprit du Seigneur vous ait passé devant la face si vous rencontrez ces sortes de gens. Ils vont comme tombe le couteau de l'exécuteur. Certains marcheurs lèvent une jambe précipitamment et l'autre avec calme. Rien n'est plus original. D'élégants promeneurs font une parenthèse en appuyant le poing sur la hanche et accrochent tout avec leurs coudes. Enfin, les uns sont courbés, les autres sont déjetés. Ceux-ci donnent de la tête de côté et d'autre, comme des cerfs-volants indécis. Ceux-là portent le corps en arrière ou en avant. Presque tous se retournent gauchement. Arrêtons-nous. Autant d'hommes, autant de démarches.
Fin de la section 9. Section 10 de
Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Jehanne. Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche, par Honoré de Balzac.
Théorie de la démarche.
Cinquième partie.
Tenter de les décrire complètement, ce serait vouloir rechercher toutes les désinences du vice, tous les ridicules de la société. Parcourir le monde dans ses sphères basses, moyennes, élevées, j'y renonce. Sur 254 personnes et demie, car je compte un monsieur sans jambes pour une fraction, dont j'analysais la démarche, je ne trouvais pas une personne qui eut des mouvements gracieux et naturels. Je revins chez moi désespéré. La civilisation corrompt tout, elle adultère tout, même le mouvement. Irais-je faire un voyage autour du monde pour examiner la démarche des sauvages? Au moment où je me disais ces tristes et amères paroles, j'étais à ma fenêtre regardant l'arc de triomphe de l'étoile, que les grands ministres à petites idées qui se sont succédés depuis M. Montalivet le père jusqu'à M. Montalivet le fils n'ont encore su comment couronner, tandis qu'il serait si simple d'y placer l'aigle de Napoléon, magnifique symbole de l'Empire, un aigle colossal, aux ailes étendues, le bec tourné vers son maître. Certain de ne jamais voir faire cette sublime économie, j'abaissai les yeux sur mon modeste jardin comme un homme qui perd une espérance. Stern a, le premier, observé ce mouvement funèbre chez les hommes obligés d'ensevelir leurs illusions. Je pensais à la magnificence avec laquelle les aigles déploient leurs ailes, des marches pleines d'audace, lorsque je vis une chèvre jouant en compagnie d'un jeune chat sur le gazon. En dehors du jardin se trouvait un chien qui, désespéré de ne pas faire sa partie, allait, venait, jappait, sautait. De temps à autre, la chèvre et le chat s'arrêtaient pour le regarder par un mouvement plein de commisération. Je pense vraiment que plusieurs bêtes sont chrétiennes, pour compenser le nombre des chrétiens, qui sont bêtes. Vous me croyez sorti de la théorie de la démarche? Laissez-moi faire. Ces trois animaux étaient si gracieux qu'il faudrait pour les peindre tout le talent dont Charles Nodier a fait preuve dans la mise en scène de son lézard, de son joli cardoon, allant, venant au soleil, traînant à son trou les pièces d'or qu'il prend pour des tranches de carottes séchées. Aussi, certes, y renoncerai-je. Je fus stupéfait en admirant le feu des mouvements de cette chèvre, la finesse alerte du chat, la délicatesse des contours que le chien imprimait à sa tête et à son corps. Il n'y a pas d'animal qui n'intéresse plus qu'un homme quand on l'examine un peu philosophiquement. Chez lui, rien n'est faux. Alors je fis un retour sur moi-même, et les observations relatives à la démarche que j'entassais depuis plusieurs jours furent illuminées par une lueur bien triste. Un démon moqueur me jeta cette horrible phrase de Rousseau. L'homme qui pense est un animal dépravé. Alors, en songeant de rechef au port constamment audacieux de l'aigle, à la physionomie de la démarche en chaque animal, je résolus de puiser les vrais préceptes de ma théorie dans un examen approfondi des actu animalium. J'étais descendu jusqu'aux grimaces de l'homme, je remontais vers la franchise de la nature. Et voici le résultat de mes recherches anatomiques sur le mouvement. Tout mouvement a une expression qui lui est propre et qui vient de l'âme. Les mouvements faux tiennent essentiellement à la nature du caractère. Les mouvements gauches viennent des habitudes. La grâce a été définie par Montesquieu qui, ne croyant parler que de l'adresse, a dit en riant « c'est la bonne disposition des forces que l'on a ». Les animaux sont gracieux dans leurs mouvements, en ne dépensant jamais que la somme de forces nécessaire pour atteindre à leur but. Ils ne sont jamais ni faux ni gauches, en exprimant avec naïveté leur idée. Vous ne vous tromperez jamais en interprétant les gestes d'un chat. Vous voyez s'il veut jouer, fuir ou sauter. Donc, pour bien marcher, l'homme doit être droit, sans roideur, s'étudier à diriger ses deux jambes sur une même ligne, ne se porter sensiblement ni à droite ni à gauche de son axe, faire participer imperceptiblement tout son corps au mouvement général, introduire dans sa démarche un léger balancement qui détruise, par son oscillation régulière, la secrète pensée de la vie, incliner la tête, ne jamais donner la même attitude à ses bras quand il s'arrête. Ainsi marchait Louis XIV. Ces principes découlent des remarques faites sur ce grand type de la royauté par les écrivains qui, heureusement pour moi, n'ont vu en lui que son extérieur. Dans la jeunesse, l'expression des gestes, de la voix, les efforts de la physionomie, l'accent sont inutiles. Alors vous n'êtes jamais aimable, spirituel, amusant, incognito. Mais, dans la vieillesse, il faut déployer plus attentivement les ressources du mouvement. Vous n'appartenez au monde que par l'utilité dont vous êtes au monde. Jeune, on nous voit. Vieux, il faut nous faire voir. Cela est dur, mais cela est vrai. Le mouvement doux est à la démarche ce que le simple est aux vêtements. L'animal se meut toujours avec douceur à l'état normal. Aussi rien n'est plus ridicule que les grands gestes, les secousses, les voix hautes et flûtées, les révérences pressées. Vous regardez pendant un moment les cascades, mais vous restez des heures entières au bord d'une profonde rivière ou devant un lac. Aussi un homme qui fait beaucoup de mouvements est-il comme un grand parleur. On le fuit. La mobilité extérieure ne sied à personne. Il n'y a que les mères qui puissent supporter l'agitation de leurs enfants. Le mouvement humain est comme le style du corps. Il faut le corriger beaucoup pour l'amener à être simple. Dans ses actions comme dans ses idées, l'homme va toujours du composé au simple. La bonne éducation consiste à laisser aux enfants leur naturel et à les empêcher d'imiter l'exagération des grandes personnes. Il y a dans les mouvements une harmonie, dont les lois sont précises et invariables. En racontant une histoire, si vous élevez la voix subitement, n'est-ce pas un coup d'archet qui affecte désagréablement les auditeurs? Si vous faites un geste brusque, vous les inquiétez. En fait de maintien, comme en littérature, le secret du beau est dans les transitions. Méditez ces principes, appliquez-les, vous plairez. Pourquoi? Personne ne le sait. En toute chose, le beau se sent et ne se définit pas. Une belle démarche, des manières douces, un parler gracieux, séduisent toujours et donnent à un homme médiocre d'immenses avantages sur un homme supérieur. Le bonheur est un grand sot, peut-être. Le talent comporte en toute chose d'excessifs mouvements qui déplaisent et un prodigieux abus d'intelligence qui détermine une vie d'exception. L'abus, soit du corps, soit de la tête, éternelle plaie des sociétés, cause ces originalités physiques, ces déviations, dont nous allons nous moquant sans cesse. La paresse du Turc, assis sur le Bosphore et fumant sa pipe, est sans doute une grande sagesse. Fontenelle, ce beau génie de la vitalité, qui devina les petits dosages du mouvement, l'homéopathie de la démarche, était essentiellement asiatique. Pour être heureux, a-t-il dit, il faut tenir peu d'espace et peu changer de place. Donc, la pensée est la puissance qui corrompt notre mouvement, qui nous tord le corps, qui le fait éclater sous ses despotiques efforts. Elle est le grand dissolvant de l'espèce humaine. Rousseau l'a dit, Goethe l'a dramatisé dans Faust, Byron l'a poétisé dans Manfred. Avant eux, l'Esprit Saint s'est prophétiquement écrié sur ceux qui vont sans cesse qu'ils soient comme des roues. Je vous ai promis un véritable non-sens au fond de cette théorie. J'y arrive. Depuis un temps immémorial, trois faits ont été parfaitement constatés, et les conséquences qui résultent de leur rapprochement ont été principalement pressenties par Van Helmont et avant lui par Paracelse, qu'on a traité de charlatan. Encore 100 ans, et Paracelse deviendra peut-être un grand homme. La grandeur, l'agilité, la concrétion, la portée de la pensée humaine, le génie en un mot, est incompatible avec le mouvement digestif, avec le mouvement corporel, avec le mouvement vocal. Ce que prouvent en résultat les grands mangeurs, les danseurs et les bavards. Ce que prouve en résultat le silence ordonné par Pythagore, l'immobilité presque constante des plus illustres géomètres, des extatiques, des penseurs, et la sobriété nécessaire aux hommes d'énergie intellectuelle. Le génie d'Alexandre s'est historiquement noyé dans la débauche. Le citoyen qui vint annoncer la victoire de Marathon a laissé sa vie sur la place publique. Le laconisme constant de ceux qui méditent ne saurait être contesté. Cela dit, écoutez une autre thèse. J'ouvre les livres où sont consignés les grands travaux anatomiques, les preuves de la patience médicale, les titres de gloire de l'école de Paris. Je commence par les rois. Il est prouvé, par les différentes autopsies des personnes royales, que l'habitude de la représentation vicie le corps des princes. Leur bassin se féminise. De là le dandinement connu des Bourbons. De là, disent les observateurs, l'abâtardissement des races. Le défaut de mouvement ou la viciation du mouvement entraîne des lésions qui procèdent par irradiation. Or, de même que toute paralysie vient du cerveau, toute atrophie de mouvement y aboutit peut-être. Les grands rois ont tous essentiellement été hommes de mouvement. Jules César, Charlemagne, Saint-Louis, Henri IV, Napoléon en sont des preuves éclatantes. Les magistrats, obligés de passer leur vie à siéger, se reconnaissent à je ne sais quoi de gêné, à un mouvement d'épaule, à des diagnostics dont je vous fais grâce, parce qu'ils n'ont rien de pittoresque et partant seraient ennuyeux. Si vous voulez savoir pourquoi, observez-les. Le genre magistrat est, socialement parlant, celui où l'esprit devient le plus promptement obtus. N'est-ce pas la zone humaine où l'éducation devrait porter ses meilleurs fruits? Or, depuis 500 ans, elle n'a pas donné 2 grands hommes. Montesquieu, le président de Brosse, n'appartiennent à l'ordre judiciaire que nominativement. L'un siégeait peu, l'autre était un homme purement spirituel. L'hôpital et d'Aguesseau étaient des hommes supérieurs et non des hommes de génie. Parmi les intelligences, celles du magistrat et du bureaucrate, de nature d'hommes privés d'action, deviennent machines avant toutes les autres. En descendant plus dans l'ordre social, vous trouvez les portiers, les gens de sacristie, et les ouvriers assis comme le sont les tailleurs, croupissant tous dans un état voisin de l'imbécilité, par privation du mouvement. Le genre de vie que mènent les magistrats et les habitudes que prend leur pensée démontrent l'excellence de nos principes. Les recherches des médecins qui se sont occupés de la folie, de l'imbécilité, prouvent que la pensée humaine, expression la plus haute des forces de l'homme, s'abolit complètement par l'abus du sommeil, qui est un repos. Des observations sagaces établissent également que l'inactivité amène des lésions dans l'organisme moral. Ce sont des faits généraux d'un ordre vulgaire. L'inertie des facultés physiques entraîne, relativement au cerveau, les conséquences du sommeil trop prolongé. Vous allez même m'accuser de dire des lieux communs. Tout organe périt soit par l'abus, soit par défaut d'emploi. Chacun sait cela. Si l'intelligence, expression si vive de l'âme que bien des gens la confondent avec l'âme, si le vis humana ne peut pas être à la fois dans la tête, dans les poumons, dans le cœur, dans le ventre, dans les jambes, si la prédominance du mouvement dans une portion quelconque de notre machine exclut le mouvement des autres, si la pensée, ce je ne sais quoi humain, si fluide, si expansible, si contractile, dont Gall a numéroté les réservoirs, dont Lavater a savamment accusé les affluents, continuant ainsi Van Helmont, Boerhaave, Bordeaux et Paracels, qui avant eux avaient dit « il y a trois circulations en l'homme, tres in nomine fluxus, les humeurs, le sang et la substance nerveuse, que Cardan nommait notre sève. Si donc la pensée affectionne un tuyau de notre machine au détriment des autres, et y afflue si visiblement qu'en suivant le cours de la vie vulgaire, vous la trouvez dans les jambes chez l'enfant, puis, pendant l'adolescence, vous la voyez s'élever et gagner le cœur. De 25 à 40 ans, monter dans la tête de l'homme, et plus tard, tomber dans le ventre. Eh bien, si le défaut de mouvement affaiblit la force intellectuelle, si tout repos la tue, pourquoi l'homme qui veut de l'énergie va-t-il la demander au repos, au silence et à la solitude? Si Jésus lui-même, l'homme-Dieu, s'est retiré pendant 40 jours dans le désert pour y puiser du courage, afin de supporter sa passion, pourquoi la race royale, le magistrat, le chef de bureau, le portier, deviennent-ils stupides? Comment la bêtise du danseur, du gastronome et du bavard a-t-elle pour cause le mouvement qui donnerait de l'esprit aux tailleurs et qui aurait sauvé les carlovingiens de leur abâtardissement? Comment concilier deux thèses inconciliables? N'y a-t-il pas lieu de réfléchir aux conditions encore inconnues de notre nature intérieure? Ne pourrait-on pas rechercher avec ardeur les lois précises qui régissent et notre appareil intellectuel et notre appareil moteur, afin de connaître le point précis auquel le mouvement est bienfaisant et celui où il est fatal? Discours de bourgeois, de niais, qui croit avoir tout dit quand il a cité « Est modus in rebus ». Pourriez-vous me trouver un grand résultat humain, obtenu sans un mouvement excessif, matériel ou moral? Parmi les grands hommes, Charlemagne et Voltaire sont deux immenses exceptions. Eux seuls ont vécu longtemps en conduisant leur siècle. En creusant toutes les choses humaines, vous y trouverez l'effroyable antagonisme de deux forces, qui produit la vie, mais qui ne laisse à la science qu'une négation pour toute formule. Rien sera la perpétuelle épigraphe de nos tentatives scientifiques. Voici bien du chemin fait. Nous en sommes encore comme le fou dans sa loge, examinant l'ouverture ou la fermeture de la porte, la vie ou la mort, à mon sens. Salomon et Rabelais sont deux admirables génies. L'un a dit « Omnia vanitas », tout est creux. Il a pris 300 femmes et n'en a pas eu d'enfants. L'autre a fait le tour de toutes les institutions sociales. Il nous a mis pour conclusion, en présence d'une bouteille, en nous disant « bois et ris ». Il n'a pas dit « marche ». Celui qui a dit « le premier pas que fait l'homme dans la vie est aussi le premier vers la tombe » obtient de moi l'admiration profonde que j'accorde à cette délicieuse ganache que Henri Monnier a peinte, disant cette grande vérité « ôtez l'homme de la société ». Vous l'isolez. Octobre 1833. Fin de la section 10. Fin de Le traité de la vie élégante, suivi de la théorie de la démarche. Par Honoré de Balzac.
When we started writing our thoughts down on paper, it opened up endless possibilities. Ideas could grow beyond the borders of the mind, and it changed the world. Somewhere along the way, we lost touch with paper, distracted by devices made for every purpose except for thinking and focus. On edge, waiting for the next notification. But what if new technology didn't pull us away from paper, but brought us closer to it? Listen. That's not paper. It's the sound of the new Remarkable Paper Pro, rewriting the future. A paper tablet with a true color ink display gentle reading light, and unheard-of tactility, with digital features for taking notes, thinking, and organizing, without any distractions. Paper is about to change the world again. Get your paper tablet at remarkable.com today.